Je vais donc interrompre pour une fois mon histoire de l'Église pour vous parler d'un pèlerinage que j'ai fait avec le mouvement pour les oratoires en Europe chrétienne. Pèlerinage que j'ai fait récemment, je viens de le faire. Alors mon discours était un petit peu moins bien préparé que d'habitude, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, et qui m'a appris bien bien des choses au sujet précisément du sujet qui nous concerne. Cette excursion, ce pèlerinage, a surtout eu pour objet l'Europe centrale. Je vous parlais d'abord de ce que nous avons vu, de la beauté de la nature. Nous avons commencé par la Côte d'Azur, puisque nous sommes, le car est parti de Nice pour se diriger vers l'Autriche puis vers la Pologne. Nous avons donc commencé par la Côte d'Azur, puis par la Côte Ligure, qui, comme chacun sait, sont des paysages remarquables. Nous avons ensuite franchi les Dolomites. Magnifique paysage alpestre, pas autre que nos Alpes, mais qui ne cède en rien quant à la beauté des paysages. Ensuite, nous avons parcouru des plaines du Pô et du Danube, des plaines extrêmement riches. J'ai été surpris de voir la richesse des récoltes, notamment de céréales, d'orge, de seigle, de blé, de maïs et de tournesol, qui n'est pas une céréale, je sais. Donc nous avons été surpris de voir la richesse de ces plaines. Et puis, nous avons franchi le Danube, grand fleuve majestueux, encore plus grand que le Rhin et qui est déjà plus grand que la Loire. Et puis, nous sommes allés entre la Pologne et la Slovaquie. Nous avons visité les monts Tatra, que je ne connaissais pas du tout, qui culminent à 2685 mètres. Des monts qui sont encore peuplés de loups, d'ours et de lynx, qui là aussi sont très peu pris par le tourisme, et on y trouve des chalets absolument semblables à ceux qu'il y avait dans nos Alpes au XIXe siècle, et c'est extraordinaire de voir cette nature avec des forêts énormes, très denses, et c'est là où le pape Jean-Paul II, quand il était jeune, allait faire du ski, du canotage et tout. J'étais très surpris par ces monts Tatra. Ensuite, nous avons vu la Pologne et nous sommes rentrés tranquillement par Vienne et par le sud de l'Allemagne. Nous avons vu évidemment les Vosges, la forêt noire, tout cela. Et pour cela, la première chose à faire, c'est de remercier Dieu de la splendeur de la nature qui a voué à cette Europe. Vraiment, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parties du monde qui sont aussi extraordinaires que tout cela. Je connaissais peu l'Europe centrale. J'avais vu la splendeur des fjords en haut, j'avais vu la splendeur des côtes espagnoles et portugaises, mais ces forêts de l'Europe centrale ont quelque chose de remarquable. La deuxième chose, c'est l'architecture. J'étais là aussi surpris de voir que là où l'art stalinien n'a pas fait ses ravages, c'est un ensemble de petites maisons, un ou deux étages, pas plus, mais qui sont colorées de rose pâle, de vert pâle, de bleu pâle, qui forment un ensemble remarquable. Les petites villes telles que Győr en Hongrie, Bratislava en Slovaquie sont des villes absolument charmantes quant à leur centre, le reste qui a été bâti, et dont les maisons sont souvent décorées de ce qu'on appelle l'art nouveau, un art qui date de grosso modo 1880 à 1910, où il y a beaucoup de cariatides, il y a beaucoup de statues, mais des statues, je dirais, aimables, ce ne sont pas des statues provocantes. Du genre baroque italien. Non, mais ce sont des statues d'aimables et toutes ces rues sont ornées. Les rues de Vienne en sont un exemple. Mais toutes les petites villes ont cet ensemble qui les rend parfaitement aimables. Ces petites maisons de couleur est un charme. Là aussi, c'est à voir. Il n'y a pas de grande curiosité, mais c'est quand même à voir. La troisième chose, c'est qu'on a remarqué une population très pieuse. Nous avons eu plusieurs cérémonies religieuses et à chaque fois, l'assistance était nombreuse et très, très pieuse. Je me souviens au centre de Nitra, il y a eu une grand-messe avec quand même un légat du pape, deux évêques, dont un d'Orient, et puis je ne sais pas combien de prêtres, une bonne centaine de séminaristes. Cette cérémonie a duré 3 heures et demie en plein soleil. Mais tout le monde est resté présent, dans cette ville qui était là pour célébrer les Saint-Cyril et les Méthodes, entre Saint-Nicolas en Slovaquie. Et nous avons été surpris de voir, même dans les plus petites régions, de voir combien il y avait de fêtes, combien les gens étaient pieux, attachés à toutes leurs traditions. Nous avons même eu, au cours de la visite en Autriche, nous avons été invités à dîner, si vous voulez, par le nonce apostolique lui-même, qui nous a reçus autour d'un petit oratoire dédié à Saint-Cyril et Méthode. Nous avons été reçus par une fanfare d'une dizaine d'instruments à vent tout à fait remarquables, et nous avons, après la bénédiction de l'oratoire, nous avons eu droit à une réception où le nonce apostolique, qui est suisse d'ailleurs, donc qui parlait fort bien l'allemand mais aussi le français, nous a raconté toute la piété populaire de ce peuple. Nous avons découvert la piété et le profond catholicisme des gens de l'Europe centrale. Qu'avons-nous vu ? Nous avons été reçus par énormément de saints. D'abord par l'enfant Jésus de Prague. Ça a commencé à Padoue, puisque notre premier arrêt a été à Padoue. À Padoue, où c'est autour de l'enfant Jésus de Prague que nous avons eu la première prière. Cet enfant Jésus qui doit sa célébrité à ce qu'il a été recouvert après une bataille qui assurait l'Empire des Habsbourg du côté de Prague. C'est pourquoi plusieurs Tchèques le regardent avec un petit peu de réticence. Moyennant quoi, il est présent partout. Dans toute l'Europe centrale, nous avons vu cet enfant aux multiples habits, cet enfant tout humble, tout petit, tout fragile, mais qui règne là-dessus et que l'on va implorer pour des causes extrêmement difficiles. Ensuite, une chose que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, je reviens, c'est que dans toutes ces cérémonies religieuses, les dignitaires politiques n'étaient pas absents. Le député maire était présent avec nous en Autriche avec le nonce apostolique, mais lors de la grande fête donnée à Nitra pour Saint-Cyril et Méthode, il y avait également un député et un représentant du gouvernement. Autrement dit, ces gens de l'Europe centrale sont beaucoup moins atteints que nous par les religions qui nous ravagent. Ensuite, après l'enfant Jésus de Prague, oui, je voulais parler de l'art aussi. L'art était surtout, bien sûr, le baroque. Alors, il y a plusieurs sortes de baroque. Il y a, bien sûr, le baroque italien, qui est très théâtral. J'ai vu des statues remarquables, avec un squelette qui joue de la trompette, avec un ange qui suce son pouce en caressant une tête de mort, avec un autre ange qui joue de la guitare. Le baroque italien est très abondant, mais aussi très théâtral. Le baroque de l'Europe centrale est moins théâtral. Il n'en reste pas moins très affectif, et les anges sont partout. Nous avons vu à Vienne et en Pologne des hôtels. On ne sait plus où compter les anges, ils sont sur les orgues, ils sont partout, ils volent dans tous les coins. Des anges très pudiques d'ailleurs, car il y a toujours le morceau d'étoffe voulu pour qu'il ne soit pas question de disserter du sexe des anges. Donc cet art baroque nous a impressionnés, tout de couleur, même les plafonds des églises sont peints, sous celles d'une richesse remarquable. Un peu fatigante à la longue. C'est pourquoi quand nous avons vu des églises plus modernes, notamment faites et fautes de crédit par les fidèles eux-mêmes en l'honneur de Jean-Paul II, nous sommes entrés dans des monuments remarquables, pleins de lumière. Je me rappelle entre autres, c'était à Vadovice, je crois, enfin peu importe, une grande église. Il y avait deux grands vitraux, l'un représentant les enfants à Fatima, l'autre représentant Jean-Paul II accueilli par Saint-Pierre au paradis, et tout le reste était de la lumière. Nous n'avons plus prié dans une atmosphère emplie de barbes en furie, de gestes théâtraux et autres, mais nous étions dans la pleine lumière. Nous avons pu remercier Dieu de toutes les grâces qu'il nous accorde. Après Saint-Antoine de Padoue, qui est un saint remarquable, puisque comme dans ses reliques, on a conservé non seulement sa main, ce qui est assez fréquent, mais aussi sa langue. Il est rare, c'est même la seule fois que j'entends parler de langue conservée comme relique. La langue, nous l'avons vue, car il a beaucoup parlé, notamment, non seulement ce saint portugais, non seulement a parlé en Italie, mais aussi en France, notamment à Montpellier, au sujet de l'hérésie des cathares. Saint-Antoine de Padoue est très honoré dans le sud de l'Europe. Ensuite, il y avait naturellement Saint-Cyril et Saint-Méthode. Saint-Cyril et Méthode ont eu un rôle capital. Ce sont deux frères, sa méthode, lui était plutôt un gouverneur, on lui avait demandé de rétablir l'ordre en sévissant contre des révoltés. Comme ça ne lui plaisait pas beaucoup, il est entré dans un monastère où bientôt son frère Saint-Cyril, beaucoup plus jeune que lui, est venu le rejoindre. Et ce sont des... Saint-Cyril était quelqu'un d'intellectuel. Ils ont résolu d'évangéliser la Moravie et les pays slaves, et pour commencer de traduire tous les textes sacrés en langue slave et d'inventer un alphabet. C'est le fameux alphabet cyrillique. Ils ont fait un travail considérable, traduit tous ces livres, et actuellement, ils sont considérés comme véritablement les pères du christianisme en Europe centrale. L'importance de l'entrée du monde slave dans le christianisme est réelle. Il ne faut pas limiter le christianisme à un héritage de l'empereur romain. Ce serait complètement idiot. Le catholicisme a son importance. Le catholicisme a ses racines germaniques, mais il a également ses racines scandinaves, il a également aussi ses racines celtes et ses racines slaves. C'est grâce à eux que tout le monde slave est entré dans le catholicisme. Il y a ensuite le désastreux schisme de Phocius, auquel Jean-Paul II et maintenant et les autres papes tentent de remédier. Paul VI était le premier d'ailleurs, qui a levé l'excommunication réciproque. Si bien qu'actuellement, si on ne peut pas faire autrement, on peut aller à une messe orthodoxe qui sera aussi valide que la messe catholique. Donc ce schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, considéré comme dramatique par Jean-Paul II, qui a dit « Il faut que le catholicisme réapprenne à respirer de ses deux poumons, l'Orient et l'Occident. » Certainement, le pape François va reprendre cela. Benoît XVI l'avait fait. Ça va être la grande importance des années à venir de reconstituer l'unité du christianisme contre l'Orient et l'Occident, qui connaissent toujours l'Eucharistie, donc ils peuvent toujours communier au corps et au sang du Christ. Le deuxième saint, enfin le énième saint auquel nous avons été, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II a véritablement rétabli le rayonnement du catholicisme en Pologne. Nous avons visité sa maison, cet enfant qui avait un grand frère qui est mort dans ses devoirs de médecin, qui a perdu sa mère très jeune, qui a perdu son père dans l'adolescence et qui a fait une carrière difficile dans un pays où le communisme rendait la vie des curés plutôt ardue. Donc il est allé, vous connaissez la fin de sa carrière, il était pape, il a redonné un mouvement de modernité à l'Église que nous allons encore voir prochainement dans les journées du Brésil. Et alors en Pologne, il est littéralement, je ne dirais pas idolâtré, mais il est adulé. Partout, on voit son portrait. Partout, on rappelle les endroits où il est allé souvent en Pologne. Et à chaque fois qu'il est allé en Pologne, il a laissé des marques, il a laissé des portraits. Il y a un Italien qui avait fait son portrait devant une église, son portrait avec un grand geste à l'italienne. Il paraît que Jean-Paul II, en le voyant, a éclaté en disant « Mais c'est moi ça ». Quoi qu'il en soit, Jean-Paul II a été une grande figure. Une dernière chose, c'était Jean-Paul II, Sainte Faustine, une jeune Polonaise que Jean-Paul II a récemment canonisée et qui est là pour la miséricorde de Dieu. Sainte Faustine qui a vu le Christ revêtu d'habits blancs et roses, que l'on voit de plus en plus souvent, et qui dit qu'il faut faire appel à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, qui est beaucoup, il ne faut pas avoir dans Dieu également le Dieu armé d'un martinet, mais le Dieu prêt à nous serrer dans ses bras, si comme le fils prodigue, nous venons pleins de contrition. Voilà, n'oublions pas la Sainte Vierge est partout, Sainte Vierge avec l'enfant, dont plusieurs ont pleuré des larmes de sang ou des larmes d'eau, mais partout, nous avons vu au beau milieu de ces autels baroques, la Sainte Vierge revêtue d'or, avec le croissant de lune sous ses pieds partout, entourée d'anges, vraiment c'est le pays de la Sainte Vierge. Alors en terminant, je dirais, voyez-vous, j'ai trouvé ce noyau de l'Europe dans cette Europe centrale, disons naturellement l'Autriche et la Hongrie, mais aussi la Pologne, la Slovaquie, probablement la Slovénie que nous n'avons pas vue, mais tout ce noyau de l'Europe centrale qui est extrêmement pratiquant, extrêmement catholique et qui peut constituer une base très sûre. Nous ne sommes pas seuls dans notre défense pour l'Europe chrétienne, Nous avons énormément de gens, nous avons rencontré des évêques, nous avons rencontré des prêtres, qui tous sont bien convaincus qu'il faut porter très haut le drapeau du catholicisme et le drapeau de notre foi. Je recommencerai mes laïus sur l'Europe chrétienne dès le mois prochain. Pour l'instant, je vous souhaite de bonnes vacances. La température est revenue, la chaleur aussi. Je vous souhaite une bonne soirée.